Dieu fait des choses tellement extraordinaires que les hommes n'arrivent pas à y croire. Parlez aujourd'hui, par exemple, de la création en 6 jours. Et vous entendrez des gens vous dire « mais c'est impossible, donc ça n'a pas eu lieu, c'est une histoire ». Parlez-leur du déluge. Ils vous diront « mais non, c'est impossible, c'est un mythe ». Parlez-leur de Sodome et Gomorre, détruits par le feu du ciel. Ils vous diront « non, c'est impossible, un dieu d'amour ne fait pas ça, c'est une légende ». Et ainsi de suite. On a l'impression que les hommes d'aujourd'hui ne vont croire que ce qu'eux peuvent accomplir, pensant qu'en réalité, Dieu est à la mesure des hommes. Heureusement, il y a aujourd'hui des gens qui croient ce que disent les Écritures de A à Z, qu'ils croient que la parole de Dieu, aussi incroyable qu'elle puisse être, est précisément l'action de Dieu parmi les hommes, parce que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que des hommes. Dans un livre qui est une introduction à la Bible, je lis ce témoignage. L'Écriture est un témoignage de l'action de Dieu dans l'histoire. Il vient y apporter aux hommes le salut et y fonder son royaume. Si la Bible s'appuyait sur des faits inexistants alors qu'elle retrace l'histoire sacrée, la foi et l'espérance des hommes reposeraient sur le vide. Je suis heureux de ce que des chrétiens disent clairement. Leur confiance et leur croyance dans les événements racontés par la parole de Dieu. Sans quoi, dit l'auteur de ce texte, notre foi et notre espérance s'appuieraient sur rien. Lorsque nous ouvrons la première page de notre Bible, nous y trouvons le récit de la Genèse. Et vous vous souvenez que le récit de la Genèse est un texte en 2 parties. Il y a 2 récits de la création. Un premier récit, au chapitre 1, et qui se termine au verset 3 du chapitre 2, incluant le sabbat, le 7e jour, et puis le 2e récit au chapitre 2, qui nous parle de la création de l'homme et de la femme, et de la responsabilité que Dieu leur donne. Mais la création de Dieu ne s'arrête pas à Genèse 1 et 2. La création de Dieu se poursuit tout au long de l'histoire. En réalité, la création de Dieu se poursuit alors que nous poursuivons la destruction dans le monde. Tout au long de l'histoire, Dieu exerce ses jugements. Et les hommes n'aiment pas entendre parler des jugements de Dieu. En réalité, les jugements de Dieu sont des barrières que Dieu place pour que la destruction ne se continue pas, ne se perpétue pas et ne s'étende pas trop loin. Ce sont des interventions pour arrêter la destruction dont nous sommes les auteurs. Ainsi, lorsque Dieu construit, nous arrivons derrière et nous détruisons. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez un cycle constant de création et de destruction. Création de Dieu, destruction par les hommes. Regardez par exemple Genèse chapitre 1, création de Dieu. Mais le texte nous dit un petit peu plus loin que les hommes vont devenir tellement méchants qu'ils ne vont penser qu'à faire le mal. Dieu va donc intervenir. C'est le déluge. Et puis, le texte continue. Dieu va sauver l'humanité du déluge. Il va sauver par Noé, création. Création d'une nouvelle humanité, création d'un nouveau peuple. Mais encore une fois, le texte nous dit que l'homme va vouloir s'élever jusqu'à se mettre à la place de Dieu, monter jusqu'aux cieux, tour de Babel. Jugement de Dieu, pour que le mal ne s'étende pas plus loin. Dieu va de nouveau créer. Il va appeler Abraham. Et là, il va créer un nouveau peuple qu'il veut utiliser comme un outil pour répandre sa connaissance dans le monde. Mais ce peuple-là va être esclave. Il faudra que Dieu exerce ses jugements pour que cet esclavage s'arrête. Ce sont les 10 plaies. Mais Dieu va recréer de ça aussi un peuple nouveau qu'il va sortir de l'esclavage. C'est l'Exode, c'est la mer Rouge. C'est le Sinaï. Mais encore une fois, ce peuple est un peuple avant tout rebelle. Par conséquent, Dieu va exercer ses jugements à nouveau et garder ce peuple dans le désert pendant 40 ans. Vous pouvez lire les Saintes Écritures et vous trouverez cette alternance constante de création de Dieu et puis de jugement de Dieu pour empêcher la destruction que l'humanité a, à perpétuer tout au long de l'histoire. Lorsque Dieu crée et lorsque Dieu recrée, il le fait sur le même modèle. Il le fait sur le modèle de sa création d'origine que nous avons dans Genèse au chapitre 1 et 2. Lorsque Dieu crée, lorsque Dieu recrée, il le fait en 7 étapes et à la fin de sa création, il donne le repos. J'aimerais regarder avec vous un texte dans le livre de la Genèse au chapitre 8 où se trouve cette œuvre de recréation de Dieu après le déluge. Au chapitre 8 et 9 de la Genèse, se trouve raconté ce qui se passe après le déluge, c'est-à-dire à la fin de cette inondation destructrice dans le monde. Au chapitre 8 et 9, se trouve rapporté le récit de ce qui se passe au moment où Noé va finalement pouvoir sortir de l'arche. Cependant, en lisant ce chapitre 8 et 9, nous allons nous rendre compte que Dieu ici recrée véritablement de la même manière qu'il a créé, c'est-à-dire en 7 étapes, reprenant les mêmes thèmes que les journées de la création. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 8, nous allons rapidement regarder ce chapitre pour retrouver les éléments que nous connaissons et qui se trouvent inscrits dans Genèse chapitre 1. Au début du chapitre 8, il est dit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. » Vous avez là un texte qui vous rappelle ce qu'il y a au début, dans le premier jour. Vous vous souvenez, dans le premier jour de la création, il était question de cette terre informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le premier jour, c'est la situation du premier jour où Dieu va créer la lumière et l'énergie dans ce monde. Le verset 2, Genèse chapitre 8, dit « Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. » Nous avons là le même thème que nous avons lors du deuxième jour. Il a plu. La pluie tombait du ciel, l'eau sur la terre montait, ce phénomène s'est arrêté. Et vous vous souvenez que dans la création du deuxième jour, Dieu a séparé les eaux de dessus des eaux qui étaient en dessous. Et il a créé l'atmosphère. Dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 6, se trouve le thème du troisième jour de la création. Regardez par exemple ce qu'il est dit au verset 7. Noé lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Et puis après, il va lâcher la colombe, vous vous en souvenez. Par exemple, verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. C'est le thème du troisième jour, où dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, Dieu va séparer la mer de la terre, et sur la terre, il va y faire pousser la végétation. Toute la verdure va pousser ce jour-là. On retrouve un petit peu plus loin, toujours dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 13, le thème du quatrième jour de la création. Il est dit « L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. » N'oubliez pas que l'arche avait été construite selon les indications que Dieu avait données avec une seule fenêtre. Elle était en haut. Il faisait sombre dans cette arche. Ce jour-là, Noé enlève la couverture. La lumière vient inonder l'arche et il regarde. Il regarde pour la première fois et il voit que la terre avait séché. Noé peut voir. Vous vous souvenez que dans le texte de Genèse chapitre 1, c'est le jour où Dieu va créer les luminaires. La lumière va apparaître en force sur la terre. Dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 15, se trouve le thème du cinquième jour. Au verset 17, il est dit ceci. « Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils se répandent sur la terre, et qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Vous vous souvenez, dans la première semaine de création, au cinquième jour, Dieu va créer les premiers animaux, les oiseaux et les poissons. Nous retrouvons ici les premiers animaux. Ils sont libérés. Le thème du sixième jour apparaît dès le verset 18 et il va s'étendre jusqu'au chapitre 9, verset 6. Regardez ce qui est dit au verset 18. « Noé sortit avec ses fils, sa femme, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. » Il est question ici des hommes, des femmes, des animaux. C'est le thème du sixième jour de la création. Et ce thème s'étend jusqu'au chapitre 9, où il est dit, au verset 1er, quelque chose d'intéressant. Genèse, chapitre 9, verset 1er, dit « Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Maintenant, gardez ceci à l'esprit, reculez de quelques pages et lisez avec moi dans Genèse chapitre 1er ce qui est dit par exemple verset 28. Genèse, chapitre 1er, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre, ayant en lui de fruits d'arbre, portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Le parallélisme entre ces deux textes est frappant. C'est une citation de Genèse chapitre 1. Nous avons là le thème du sixième jour où Dieu va confier la terre à Adam et Ève. Et puis, au sortir de l'arche, il va confier la terre à Noé et à sa famille. Bien entendu, nous avons aussi le thème du septième jour. Genèse, chapitre 9, ce thème du septième jour va s'étendre du verset 8 jusqu'au verset 17, où nous allons trouver l'équivalent du sabbat. Regardez au verset 8, il est dit, « Dieu appela encore Noé et ses fils en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'alliance. Le signe de l'alliance, c'est précisément le thème du repos du sabbat. Le signe de l'alliance, c'est précisément le quatrième commandement, dont l'expression dans les tables de la loi est différente des autres. Vous vous souvenez, le quatrième commandement commence en disant « Souviens-toi du jour du repos ». Eh bien, regardez quelques versets plus loin dans Genèse chapitre 9. Au verset 14, il est dit « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. » Souviens-toi. Dieu aussi veut se souvenir. Se souvenir, ce n'est pas simplement être capable de rappeler à la mémoire un fait passé. Se souvenir, c'est être fidèle à l'alliance. Dieu promet d'être fidèle à son alliance. Dieu se souviendra de l'alliance. Est-ce que nous nous en souvenons? Est-ce que notre fidélité à la loi de Dieu et au quatrième commandement fait de nous des fidèles de l'alliance? Le thème du sabbat apparaît ici, c'est le thème du repos. Parce que Dieu a fait alliance, il est le garant de notre sécurité. Lorsque Dieu reconstruit, il reconstruit de la même manière qu'il a construit, sur le même modèle. Lorsque Dieu veut établir en nous sa recréation, il nous propose aussi de suivre le même schéma. Dieu nous propose une nouvelle naissance. Mais il ne nous propose pas seulement une nouvelle naissance, il nous propose aussi une nouvelle croissance. Nouvelle naissance et nouvelle croissance. Et j'aimerais vous suggérer ce matin que le programme de Dieu, celui qu'il nous propose pour la nouvelle naissance et pour la nouvelle croissance, est aussi un processus en 7 étapes. Et à la fin, le Seigneur encore nous donnera le repos. Quelles sont donc ces 7 étapes par lesquelles le Seigneur nous propose la nouvelle naissance et la nouvelle croissance? La première étape, c'est la repentance. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit « c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance ». Dans l'Évangile de Jean, il nous est dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, qui nous fait prendre conscience de notre état et de notre situation. La repentance, c'est ce changement d'état d'esprit dans notre relation avec Dieu. La repentance, c'est cette souffrance que nous avons d'avoir causé de la souffrance à quelqu'un qui nous aime. La vraie repentance, ce n'est pas le regret d'une mauvaise action pour laquelle on a été pris. La repentance, c'est la souffrance d'avoir fait souffrir quelqu'un que l'on aime. C'est la première étape, la repentance. La repentance s'ouvre naturellement sur l'étape suivante qui est la confession. Le psalmiste, dans le psaume 32, dit ceci, « Je n'ai pas caché mon iniquité, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » La confession, c'est être capable, avoir le courage, l'humilité de dire à Dieu la vérité à notre sujet, lui dire ce qu'il en est véritablement de nous, au fond de nous-mêmes, et de le lui donner. La confession, c'est lui ouvrir notre cœur, comme on ne l'ouvrirait à personne d'autre, pour qu'il puisse y voir ce qu'il y a de bon, mais aussi ce qu'il y a de mauvais. La troisième étape, c'est la conversion. Jean-Baptiste prêchait au bord du Jourdain et demandait aux gens qui étaient là, « Portez donc les fruits dignes de la repentance. » La conversion, c'est le fruit de la repentance. C'est ce changement de direction. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, leur disait « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles. » La conversion, c'est abandonner ce qui dans notre vie fait entrave à la relation avec Dieu. La conversion, c'est un changement de direction dans notre relation avec Dieu. La quatrième étape dans notre renaissance, c'est l'engagement. Au jour de la Pentecôte, les disciples ont prêché. Ils ont annoncé à ces gens qui étaient là que celui qu'ils ont mis là sur la croix il y a plus d'un mois, c'était celui que Dieu avait envoyé pour sauver l'humanité. Et vous vous souvenez que tout d'un coup, saisis par la signification de ce que Jésus est venu faire, ils demandent aux apôtres « Que ferons-nous ?» Et les apôtres leur répondent « Repentez-vous et soyez baptisés. » L'engagement, c'est la quatrième étape qui permet de compléter cette expérience de la nouvelle naissance. Le baptême, par lequel on va mourir et puis ressusciter en Jésus-Christ. Mourir à cette vie ancienne et au péché, ressusciter dans une vie nouvelle. D'où l'expression « nouvelle naissance » dont Jésus parle à Nicodème. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Dieu veut nous conduire au travers de la nouvelle naissance, mais aussi au travers de la nouvelle croissance. Il y a donc une cinquième étape qui consiste à mourir à soi-même. Dans l'Évangile de Luc, Au chapitre 9, Jésus disait, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Cette étape de mourir à soi-même, c'est finalement notre vécu en tant que chrétien de chaque jour. C'est ce à quoi nous sommes invités pour pouvoir permettre cette nouvelle croissance. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste disait en parlant de Jésus, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est l'expérience justement à laquelle nous sommes invités. Mourir à nous-mêmes pour que le Christ grandisse, qu'il grandisse en nous. Il y a une sixième étape qui correspond aussi à ce processus nécessaire de la nouvelle croissance. C'est le service. Vous vous souvenez que Jésus, au moment où il quitte pour retourner au ciel, envoie ses disciples comme des missionnaires dans le monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et puis, il leur dit aussi, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce processus de reconstruction, Dieu fait de nous des missionnaires, des témoins, des ambassadeurs, des prédicateurs. Il nous demande de partager cette bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. C'est la mission, c'est le service. Non pas seulement des spécialistes, que sont peut-être les pasteurs et les anciens. L'Église entière a cette mission-là parce que chaque individu a reçu cette même mission. Nous sommes tous ambassadeurs de Jésus-Christ, invités au service, à la mission, au témoignage dans le monde d'aujourd'hui. Et puis la septième étape. La septième étape, c'est reproduire le caractère de Jésus. Et là, j'aimerais vous rappeler ce passage qui se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, au verset 23, où il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et le texte continue en disant, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est là le thème du repos. En fait, reproduire ce caractère de Christ, c'est l'accomplissement, c'est le couronnement de ce processus de nouvelle naissance et de nouvelle croissance. Comme pour le sabbat, c'est le repos. Parce que c'est lui qui le fait. En effet, si nous travaillons six jours, si nous travaillons sur ces six étapes de croissance, le Seigneur nous promet de prendre soin lui-même de cette dernière étape, celle du repos, parce que c'est lui qui le fera. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7 et au chapitre 14, il est question des 144 000. 144 000 chiffres symboliques qui représentent tous ceux qui sont debout le jour où Jésus revient. Et sur leur front est écrit le nom de Dieu. Ils portent le caractère de Christ. Le caractère de Christ est parfaitement reflété en eux. Ce sont ceux-là qui sont prêts. Ils sont le couronnement du processus de reconstruction que Dieu veut accomplir dans chacun de ses enfants. Il représente ce repos que Dieu donne à ses enfants en garantissant que c'est lui qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Il n'est donc pas étonnant, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, de voir la reconstruction de Dieu aussi de la même manière, sur le même modèle. Ces 144 000, avec tous les sauvés de tous les temps, vont finalement constituer cette nouvelle Jérusalem que Jésus vient installer sur la terre. Quand on ouvre le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, nous avons une description symbolique de cette nouvelle Jérusalem. Elle est présentée comme une ville. En fait, c'est une femme. En fait, cette femme, c'est le groupe de tous ceux qui sont sauvés et qui redescendent sur la terre avec Jésus-Christ à la fin du grand conflit entre le mal et Dieu. La description est assez extraordinaire. On pense là à une ville avec des murailles de cristal, avec des rues en or, avec des pierres extraordinaires. Mais quand on voit la description, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une vraie ville, c'est une ville symbolique. En fait, c'est une description du caractère parfait de ces gens qui sont sauvés, de cette nouvelle Jérusalem, de ce nouveau peuple de Dieu. Quand on regarde le texte, on découvre que ce texte est organisé en 2 fois 7 étapes. 2 fois 7 étapes symétriques, chacune d'elles. On était habitué dans le livre de l'Apocalypse à avoir des séries de 7. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. On s'attendrait à trouver ici, dans la dernière partie, 7 étapes pour la Nouvelle Jérusalem. Mais non, il n'y en a pas une, il y en a 2. Il y a 2 fois 7 dans ce chapitre, 2 fois 7 étapes symétriques qui s'étendent depuis Apocalypse chapitre 21, verset 9, jusqu'à Apocalypse 22, verset 5. Pourquoi 2 fois 7 cette fois-ci? Eh bien, c'est simple. Souvenez-vous, lorsque Dieu crée le monde, il le crée en 7 étapes, mais il y a 2 récits de la création. Chapitre 1 et chapitre 2. Lorsque Dieu recrée finalement l'univers et qu'il a enfin recréé son caractère parfait dans le cœur de chacun de ses enfants, on reprend le même thème. Il y a 2 fois 7. C'est Dieu qui parachève sa création pour toujours. L'Apocalypse se termine par conséquent avec 2 fois 7. Comme dans la Genèse, 2 récits de la création basés sur les 7 étapes de la reconstruction parfaite de Dieu. Lorsque Dieu recrée comme il a créé. Il recrée en 7 étapes et il donne le repos. Mais nous avons, nous aussi, dans notre vie, 2 récits de la création. Nous avons notre création naturelle, notre naissance et notre croissance naturelle qui a fait de nous des adultes. Mais il y a aussi le récit de notre recréation en Jésus-Christ. Le récit de notre nouvelle naissance et le récit de notre nouvelle croissance. Nous avons aussi 2 récits de création dans notre vie. Mais la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Où est-ce que nous en sommes dans notre nouvelle croissance? Où est-ce que nous en sommes dans la reconstruction? Jusqu'où le Seigneur a-t-il pu aller dans la reconstruction? Est-ce que les travaux de reconstruction sont arrêtés? Est-ce que les travaux de reconstruction sont ralentis? Est-ce que les travaux de construction vont bon train au contraire? Est-ce que cette reconstruction progresse de jour en jour, d'année en année? Ou bien alors est-ce que, en réalité, c'est de la destruction qui est en train de se faire? Mais souvenez-vous, pour ne pas que la destruction aille jusqu'au bout, Dieu interviendra par ses jugements. Alors, sommes-nous en destruction ou sommes-nous en reconstruction? Et si nous sommes en reconstruction, à quelle étape de la reconstruction sommes-nous arrivés? Sommes-nous à la première, à la repentance? En sommes-nous arrivés à la confession? Sommes-nous arrivés à la conversion, à l'engagement? En sommes-nous à mourir à nous-mêmes? Sommes-nous engagés dans le service, dans la mission? Le Seigneur est-il en train de reproduire en nous son caractère et de nous donner le repos? Où en sommes-nous dans la reconstruction? Où en sont les travaux chez vous, chez moi? Notre prière aujourd'hui, pour terminer, c'est celle que David adressait à Dieu dans ce psaume 51, où il disait « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle ou reconstruis en moi un esprit bien disposé. » Amen.